Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Jean-René Carfentan. Il est vice-président du conseil départemental des Côtes d'Armor, délégué à l'éducation et à l'éducation populaire. Il nous a rejoint au micro de la matinale en direct. Je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler du collège de Corlay ce matin. On en a parlé sur cette antenne il y a quelques jours avec la présidente du comité de soutien du collège. On voulait recueillir également la vision du conseil départemental qui gère ce collège de Corlay. J'aurais voulu qu'on commence, si vous le souhaitez, un peu par la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui autant du collège de Corlay qui est menacé de fermeture, hein, il faut bien le dire.
Tout à fait, effectivement, c'est un sujet. Effectivement, le département s'est engagé dans une démarche de fermeture du collège de Corlay et d'un regroupement donc, des deux établissements que sont les collèges de Corlay et de Saint-Nicolas-du-Pélem sur un seul site à Saint-Nicolas-du-Pélem. À la rentrée, donc rentrée 2024. La genèse, à l'origine, en fait, ça date de quelques années maintenant, au terme du PPIC, c'est le plan pluriannuel d'investissement des collèges qui programme les grosses opérations d'investissement. Au terme du PPIC 2029-2021, une étude prospective a été lancée. Et cette étude donc croise ou a croisé donc d'une part l'état bâtimentaire des 47 collèges publics que compte le département et d'autre part également l'étude a croisé ou a évoqué en fait la perspective de la démographie scolaire à court et moyen terme. Et donc cette étude avait pour objectif d'une part de vérifier la capacité d'accueil au sein des établissements, mais également de s'interroger sur l'équilibre entre les territoires qui existent aujourd'hui, et puis bien entendu à prioriser les futurs investissements, grosses opérations d'investissement pour le PPIC, donc, qui est désormais d'ailleurs adopté depuis le mois de juillet pour la période 2023-2028. Et à cette occasion-là, effectivement, de ces études, le constat a été fait, mais il existait depuis longtemps le constat sur le territoire de Corlay et Saint-Nicolas, on le sait toutes et tous, qu'il y avait des effectifs très faibles au sein des deux établissements. À Corlay, cette année, ce sont 65 enfants qui ont fait leur rentrée, 91 à Saint-Nicolas-du-Pélem. L'année dernière, c'était 71 à Corlay et 76 à Saint-Nicolas-du-Pélem. Et malheureusement, j'ai envie de le dire, malheureusement, cette dynamique démographique est négative depuis plusieurs années. Sur les 6 dernières années, on a compté 30% d'effectifs en moins, c'est considérable. Donc c'est une des raisons, effectivement, qui motive le conseil départemental aujourd'hui à envisager ce projet de fermeture de Corlay. Ça n'est pas la seule raison. Une des autres raisons fait que, justement, nous avons le souhait de maintenir un service public sur ce secteur.
C'est ce qui est demandé. Il y a beaucoup d'interrogations, de peurs aussi sur le fait que le service public ou les services publics qui ont déjà beaucoup connu de coupes dans ce secteur, avec le départ du collège, puissent encore, en tout cas, on ressentira un impact plus important sur les territoires.
Alors justement, c'est ce à quoi nous avons été très sensibles, justement. C'est plutôt de se dire, par principe, on va maintenir le collège de Corlay, considérant pour autant que les effectifs étaient très faibles, ce qui n'a échappé à personne, on est bien d'accord. Considérant ce fait-là, on s'est dit, il nous faut absolument préserver un service public, mais de qualité, pas un service à minima. Un service public de qualité sur ce secteur Centre-Bretagne, donc sur Corlay et Saint-Nicolas. Et quand on constate qu'effectivement la distance entre Corlay et Saint-Nicolas du PLM n'est que de 8 km, il nous a semblé complètement logique d'envisager un regroupement des deux établissements avec, à terme, et ça je le dis parce que on l'entend trop peu souvent, une reconstruction sur site à Saint-Nicolas-du-Pélem d'un nouvel établissement, un nouvel établissement de territoire que l'on veut attractif et qui certainement contribuera à accueillir davantage d'élèves que le collège de Corlay et de Saint-Nicolas-du-Pélem ne font aujourd'hui, parce qu'on a constaté aussi, mais on le sait, une fuite, ce qu'on appelle une stratégie d'évitement des familles. Plus de la moitié des familles aujourd'hui n'inscrivent pas leurs enfants au sein de Corlay ou de Saint-Nicolas-du-Pélem. Une autre raison de cette décision-là, bien entendu, c'est l'état bâtimentaire des deux établissements qui pose aujourd'hui question, qui interroge vraiment, avec la nécessité à court ou moyen terme d'envisager de gros travaux de reconstruction, notamment au niveau de la restauration pour Corlay, des fonctionnements, des aspects techniques, la mise en conformité également réglementaire pour tout ce qui concerne les changements de dispositifs de chauffage et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, ce à quoi nous étions très sensibles quand même, parce qu'on parle de l'enjeu effectivement de préserver un service public de qualité sur ce territoire-là, c'est aussi avant tout de mettre au centre du débat et de nos échanges l'intérêt de l'enfant.
Mmh. Alors justement, le comité qui s'est créé pour pouvoir conserver ce collège à Corlay met en face de vos arguments le fait que beaucoup de familles ne peuvent pas se déplacer, que ça va être compliqué, qu'il va falloir mettre un service de bus en place, etc. Est-ce que vous voulez rassurer là-dessus ?
Ben, on se veut très rassurant et on le fait depuis le début de nos échanges, j'ai envie de dire. Ou notre volonté d'échanger dans tous les cas. Parce qu'effectivement, en parallèle de cette fermeture du collège de Corlay et du regroupement des deux établissements, il y a une réflexion concernant l'évolution de la sectorisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va devoir redéfinir le périmètre du secteur de recrutement de ces deux établissements-là et faire en sorte effectivement de bien définir quelles sont les communes qui vont intégrer donc, le futur territoire de Saint-Nicolas du Pelem. Et dans cette optique-là, on s'est évidemment attaché, entre guillemets, les services pour ce qui est de la réflexion de la direction académique, des services de l'éducation nationale, bien entendu. Mais également, on s'est attaché les services de la région, si vous me permettez l'expression, puisque c'est la région qui exerce la compétence transport. Et nous étions évidemment très sensibles et très attachés à ce que cette évolution de la sectorisation et cette nécessité pour certains enfants de prendre, les enfants de Corlay, hein, de prendre le car donc, dès la rentrée 2024 ne soit pas un handicap pour eux. Effectivement, la région s'engage aujourd'hui à faire en sorte que la distance et surtout la durée de transport soit bien adaptée et soit largement raisonnable.
Alors, il y a une redistribution aussi de la carte scolaire. Elle va être modifiée, de fait.
Oui, tout à fait, effectivement.
Alors, donc, cette modification de la carte scolaire, elle interroge aussi, hein, là encore, les familles à Corlay. Là aussi, vous pouvez les rassurer là-dessus ?
Oui, bah, ça se veut très rassurant. Si je peux rentrer un peu dans le détail, effectivement, on a lancé donc, cette démarche de réflexion et de concertation pour envisager une évolution de la carte scolaire. L'enjeu, l'objectif, c'est que la sectorisation puisse être cohérente, puisse être équilibrée à l'échelle de tout ce secteur-là. Et c'est la raison pour laquelle on ne s'est pas focalisé uniquement sur le secteur de Corlay et de Saint-Nicolas-du-Pelem, mais on a envisagé de façon plus globale une réflexion plus élargie. Pourquoi ? Parce qu'on voulait s'assurer que sur l'ensemble de ce territoire-là, le secteur Saint-Nicolas-Corlay d'une part, mais également les collèges voisins que sont ceux de Rostrenin, de Quintin, de Garlédan par exemple, on ait un vrai équilibre de territoire avec, et ça c'est l'enjeu aussi, d'avoir au moins deux divisions par classe à terme, à minimum. S'il y en a plus, évidemment, nous serons très heureux et c'est ce vers quoi nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et par rapport à cette sectorisation-là, un des enjeux justement, c'était de faire en sorte que le transport soit facilité et faire en sorte que les enfants demain puissent bénéficier d'un collège où ils puissent non seulement travailler dans de bonnes conditions, mais également s'épanouir et faire en sorte de bénéficier de ce qu'on appelle l'émulation pédagogique. Alors, je reviens sur ce terme-là parce qu'il m'a largement été reproché, ce terme. Il ne s'agit pas de remettre en question la dynamique pédagogique ou les compétences des enseignants, bien entendu, et des enseignantes. C'est avant tout s'assurer que cette émulation-là puisse générer des projets pluriannuels pédagogiques pérennes, plus importants qu'ils ne sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, compte tenu que, et à Corlay, à Saint-Nicolas-du-Pelem, nous n'avons qu'une qu'une classe par niveau, pardon, en 6e, en 5e, en 4e et 3e. Les équipes pédagogiques donc sont réduites, sont instables. Une seule professeure est titulaire en poste aujourd'hui à Corlay, donc ça rend plus difficile effectivement la démarche pédagogique.
Alors on a entendu des voix qui disaient voilà, il y a un choix politique, voilà, c'est pas un choix pédagogique, c'est un choix politique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui allez, je vais peut-être pas aller jusqu'au mot accusé, mais en tout cas vos reproches là.
Oui, vous avez raison, ce sont des reproches assez malsains, malheureusement, parce que effectivement. Notre seul objectif et notre seul enjeu, c'est justement, comme je le disais, placer l'enfant au cœur du projet. C'est un terme qu'on entend souvent, mais là, clairement, c'est donner l'égalité des chances à l'ensemble des enfants, des collégiennes et des collégiens, qu'ils soient inscrits dans un collège en littoral, en urbain ou en zone plus rurale. Tous les enfants du département doivent bénéficier des mêmes conditions et des mêmes outils. Et ce sera le cas avec le futur collège de territoire à Saint-Nicolas-du-Pelem. Alors effectivement, certains ont évoqué le fait que ce serait un choix politique. Je ne sais pour quelle raison, si ce n'est que c'était peut-être le seul argument qu'ils avaient dans leur besace pour nous opposer ce projet-là. J'aime à souligner quand même et à rappeler que l'étude dont je parlais tout à l'heure, et notamment l'étude prospective sur les effectifs, a été lancée par la précédente majorité, l'actuelle minorité du conseil départemental. Ils l'ont lancé en 2020 ou 2021. Nous en avons tiré les conclusions. Donc je pense, j'en suis même certain, que si cette démarche de lancer une étude avait été initiée, c'était bien pour en faire quelque chose. Et en toute responsabilité, aujourd'hui, effectivement, on fait ce choix parce que c'est ce qui nous assure le fait de maintenir un collège en Centre-Bretagne sur le secteur Corlay-Saint-Nicolas-de-Puylem.
Alors, la décision du conseil départemental interviendra lundi prochain, le 18 décembre. Elle sera irrévocable, c'est-à-dire s'il y a décision de fermeture, il n'y aura pas d'appel possible.
Alors le principe effectivement de la session de lundi prochain, du 18, c'est de pouvoir se réunir dans le cadre d'une session donc ouverte au public. Les élus du conseil départemental seront appelés à délibérer sur deux sujets. L'un concernant la fermeture du collège de Corlay, effectivement, et l'autre concernant donc l'évolution de la sectorisation telle qu'on l'a imaginée. Et je me permets de revenir là-dessus sur l'évolution de la sectorisation, parce que je ne suis pas rentré tout à l'heure plus dans le détail. L'évolution de la sectorisation telle qu'on l'imagine demain, c'est de rattacher donc la commune de Corlay, celle du Haut-Corlay et celle de Plus-Sullien, donc au collège de Saint-Nicolas-du-Pélem. Et quand j'évoquais tout à l'heure la concertation concernant la sectorisation, nous avions envisagé peut-être d'autres hypothèses, mais au regard des échanges, des réserves qui ont été émises par les uns et les autres, je pense sur le secteur de Rostrenin notamment, sur celui également de la commune nouvelle de Beaurepaire-sur-Blavet, eh ben, nous avons considéré effectivement qu'il était légitime et important de préserver le statu quo et ne pas remettre en question. Donc demain, ce sont seulement ces trois communes-là qui seront associées à Saint-Nicolas-du-Pélem. Et pour les trois autres communes que sont Saint-Mailleux, Larmois et Saint-Martin-des-Prés, elles sont resectorisées sur un autre collège, Saint-Mailleux à Guerlédan et puis Larmois et Saint-Martin-des-Prés à Quintin. Et là, c'est le fruit, on va dire, des échanges avec les maires de ces communes concernées. Donc on sait qu'on est dans le vrai. Malheureusement, on n'a pas pu concerter, on n'a pas été reçu par les trois maires de Corlay, du Haut-Corlay et de Plus-Sullien. Donc on n'a pas pu vraiment approfondir la démarche qui se veut constructive.
Vous avez pu discuter avec le comité de soutien du collège de Corlay. Voilà, on a eu le sentiment, lorsqu'on a entendu la présidente ici sur l'antenne de Bretagne 5, que la communication était difficile, le dialogue était difficile.
Oui, c'est un fait, malheureusement, on le regrette. Le dialogue est difficile. Nous avons souhaité, fin mai, donc pouvoir entamer des échanges. On a eu ce qu'on peut appeler une fin de non-recevoir, très clairement. Aucun dialogue n'est possible aujourd'hui. C'est à sens unique. Donc on a réitéré les démarches de concertation. Je me suis, moi, personnellement, rendu plusieurs reprises sur le secteur de Corlay ou de Saint-Nicolas-du-Pélem pour échanger. J'ai pu échanger, je le disais, avec certains maires du secteur, avec certaines personnes référentes des établissements, des parents d'élèves, mais pas avec les membres du collectif comme on aurait pu l'avoir. C'était un peu frontal, malheureusement. Et clairement, à l'échelle des maires, et notamment du maire de Corlay, il y a une volonté de balayer du revers de la main toute possibilité d'échange au-delà du seul sujet de la fermeture de Corlay, puisqu'il y avait une opportunité aussi à réfléchir sur d'autres sujets pour justement s'assurer que le futur collège à Saint-Nicolas-de-Pélem soit très attractif et que l'on puisse, avec l'ensemble des acteurs du territoire, construire un projet éducatif de territoire qui réponde aux atouts de ce secteur-là et qui nous permette justement d'encourager plus facilement les familles à inscrire leur enfant sur le collège.
Alors, on a la Cour des comptes aussi, qui a été proche du dossier, qui a été consultée et qui n'a pas rendu d'avis. La Cour des comptes n'a pas pris de décision, je vais y arriver, n'a pas pris de décision. Est-ce que pour vous, c'est plutôt un signal intéressant ou au contraire, vous émettez des réserves?
Alors, le principe de la Chambre régionale des comptes, effectivement, c'est de ne pas donner, de faire de décision, c'est de donner des préconisations. Mmh. Et dans le cadre de sa démarche, effectivement, la Chambre régionale des comptes a effectué le diagnostic concernant la gestion des collèges par le Conseil départemental sur la période 2016-2021. Elle a rendu son rapport, que j'ai eu l'occasion de présenter en assemblée plénière au mois de juillet. Et ce rapport dit plusieurs choses. Et il préconise notamment, ou il identifie notamment des secteurs sur l'ensemble du département, des secteurs en fragilité. L'un notamment, celui de Corlay-Saint-Nicolas-du-Pélem, en très grande fragilité, et trois autres dans des fragilités plus relatives. Pour ce qui concerne Corlay-Saint-Nicolas-du-Pélem, la Chambre régionale des comptes préconise deux choses, deux hypothèses. La première consistait à fermer un des deux établissements et d'envisager un regroupement sur des deux collèges. La deuxième hypothèse, c'est de fermer très clairement les deux établissements, considérant leur fragilité, notamment pour ce qui concerne les effectifs scolaires. Évidemment,
ce qui aurait des conséquences quand même sur le centre Bretagne, le Cresbrez, hein, comme on l'appelle. Justement, c'était inenvisageable la fermeture des deux collèges.
C'était clairement inenvisageable, et c'est ce quoi nous sommes refusés. Et en responsabilité, même si le choix n'est pas facile, c'est la raison pour laquelle nous avons pris l'option d'engager une démarche de fermeture d'un des deux établissements. Un des deux établissements, en l'occurrence, c'est celui de Corlay. Pourquoi ? Mais pour des raisons que j'ai largement évoquées. Parce que, d'une part, à Saint-Nicolas-du-Pelem, effectivement, c'est la garantie de pouvoir effectuer des travaux sur site et en site occupé. Et puis parce que si nous avions fermé Saint-Nicolas-du-Pelem, on aurait créé, comme vous le disiez, un grand vide dans ce secteur-là. Et c'était impensable. Aujourd'hui, en préservant un collège public à Saint-Nicolas-du-Pelem, on garantit un équilibre au niveau du territoire, un équilibre géographique.
Alors, on vous a reproché, évidemment, aussi la gestion comptable. On a dit, voilà, le conseil départemental veut faire des économies, des coupes budgétaires. Donc, on économise et c'est sur Corlay que ça tombe. Là aussi, qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui vous accusent un petit peu de faire de la gestion comptable, justement ?
J'ai envie de dire, quand on n'a pas beaucoup d'arguments à développer pour être en opposition ou pour faire des objections, on essaie de trouver tous les arguments possibles et inimaginables. Chacune et chacun qui connaît ce dossier, qui s'est un minimum intéressé et qui se montre un minimum sensible à l'intérêt de préserver un service public de qualité sur le secteur-là, de Corlay-Saint-Nicolas-du-Pelem, ne peut pas opposer cette objection de l'aspect comptable. Bien entendu, ça n'est pas un aspect comptable. On l'a dit, c'est l'enjeu, l'enfant, apporter des qualités d'enseignement et des conditions d'exercice optimales pour les enfants. J'ai envie de dire, si ça avait été le cas, on n'aurait pas adopté toutes les politiques départementales telles qu'on le fait aujourd'hui. Dans le cadre de la protection de l'enfance, par exemple, aujourd'hui, on a augmenté notre budget de 30%. C'est révélateur, justement, de la volonté du conseil départemental, ou de sa majorité, dans tous les cas, à accompagner l'enfance, et même au-delà de l'enfance, du plus jeune âge jusqu'au plus ancien, puisqu'on a... On travaille également sur l'autonomie et la personne en situation de handicap. Et non, la seule chose qui nous a animés et qui nous a motivés, effectivement... c'est l'enjeu concernant l'émulation pédagogique et l'intérêt de préserver un service sur le secteur Centre-Bretagne. Après, effectivement, il y avait l'enjeu bâtimentaire, mais là aussi pour apporter de bonnes conditions d'exercice. Ça a un coût, soit, mais on l'assume, bien entendu.
Alors aujourd'hui, l'éducation est un peu au sein de la réflexion, bien au-delà des Côtes d'Armor, on l'entend un peu partout en France, avec... beaucoup de difficultés à enseigner pour les enseignants aujourd'hui, beaucoup de difficultés à avoir des classes des fois un peu moins chargées. Alors là, ça va peut-être être du ressort de l'éducation nationale. Mais est-ce que un département comme les Côtes d'Armor, veille justement à ce que bien ça se passe bien finalement? On a aussi d'autres phénomènes plus graves. On pense à la radicalisation de certains élèves dans un contexte qui est ce qu'il est, qui est très compliqué. Est-ce que justement le conseil départemental a, j'allais presque dire, un œil là-dessus?
Alors le conseil départemental a un œil sur les sujets qu'il concerne et sur les sujets pour lesquels il est légitime. Ça ne nous empêche pas effectivement d'être très sensibles et vigilants à tout ce qui se passe autour. Là, en l'occurrence, pour le volet pédagogique, ça relève de l'éducation nationale, comme vous le savez. Maintenant, effectivement, on est quand même étroitement associés, puisque dans le cadre de nos projets, notamment d'entretien, mais surtout de création de nouveaux établissements ou de réhabilitation d'établissements, nous devons prendre en considération le volet pédagogique pour faire en sorte que dans notre programme type bâtimentaire, les espaces soient suffisamment dimensionnés, les espaces soient suffisamment adaptés, justement, pour que les collégiens et collégiennes puissent apprendre et s'épanouir dans de bonnes conditions.
Alors il y a aussi l'aspect de sécurité. Alors là, il n'y en a pas évidemment sur Saint-Nicolas-du-Pelem ou même Corlay, pardon. Il n'y a pas ces problèmes-là, mais il y a d'autres collèges qui sont dans des zones urbaines où on commence à avoir des incivilités, par exemple le deal à la porte des collèges, ça arrive aussi ici dans les Côtes d'Armor malheureusement. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui est de nature à vous préoccuper pour les années à venir? S'il va falloir en quelque sorte mieux sécuriser les collèges ou en tout cas faire en sorte que voilà, le deal par exemple ne s'invite pas dans le collège?
Évidemment, le deal ne doit pas s'inviter dans les établissements, dans le collège, bien entendu. En matière de sécurité, de toute façon, le département a l'obligation de mettre en sécurité donc ses établissements, ses collèges. Et c'est un enjeu auquel nous sommes très attachés. Et c'est ce sur quoi on s'est déjà engagé. Et dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement des collèges dont je faisais écho en préambule sur la période 2023-2028, on s'inscrit d'ailleurs dans la continuité de ce qui a fait sur les dernières années, c'est-à-dire qu'on sécurise l'ensemble des périmètres des établissements pour éviter les intrusions. Déjà dans un premier lieu. Et après, effectivement, il y a une démarche, et dans le cadre de notre accompagnement au projet pédagogique et éducatif, évidemment qu'on sensibilise, alors pas sur les sujets dont vous venez de parler, mais sur des sujets qui sont en lien avec les politiques départementales et qui doivent contribuer justement à rendre plus sereins les élèves et à faire en sorte qu'ils se trouvent bien au sein de leur établissement et qu'ils n'aient pas envie d'envisager autre chose.
Alors vous parliez tout à l'heure des relations entre la région et le département pour les déplacements scolaires. Alors souvent ils sont pointés du doigt ces déplacements scolaires, les auditeurs nous écrivent en disant oui mais voilà les horaires c'est pas toujours simple et puis l'écart et puis quand, voilà. Est-ce que là aussi il y a une réflexion à avoir dans les années qui viennent pour essayer de mieux coordonner le transport scolaire dans les Côtes d'Armor ?
Alors clairement il y a une réflexion à avoir, mais la réflexion elle existe déjà entre la région qui exerce la compétence transport, et avec le département, mais également, j'ai envie de dire, avec les communes, qui sont plus en proximité encore, puisque effectivement la région met en place des lignes de transport. Après, il y a une réflexion avec les acteurs de proximité pour décider de l'endroit le plus opportun pour mettre en place les arrêts. Donc voilà, donc nous y sommes liés et associés au même titre que les communes. Et évidemment, nous sommes attachés à faire en sorte que les choix qui soient portés par la région puissent être les plus cohérents possibles pour permettre justement d'avoir des temps de transport qui soient le moins important possible.
Alors, un presque dernier mot, on a encore un petit peu de temps. Moi, je notais tout à l'heure en vous présentant Jean-René Carfentan que vous étiez délégué à l'éducation et à l'éducation populaire. Alors, on en parle beaucoup de l'éducation populaire. Aujourd'hui, on dit voilà, il faut revenir à l'éducation populaire. Oui. Qu'on a perdu de vue ou qu'on a un petit peu mis de côté. En quoi ça pourrait consister aujourd'hui pour un département comme les Côtes d'Armor de remettre au goût du jour, de remettre sur l'avant-scène l'éducation populaire ?
L'éducation populaire telle qu'on la conçoit et telle que je la conçois personnellement, c'est effectivement accompagner, encourager les personnes, quel que soit leur profil, à exercer leur citoyenneté plus facilement qu'est-ce qu'elles sont peut-être en capacité de faire aujourd'hui. Nous avons mis en place un plan démocratie au sein du département. Et grâce à ce dispositif-là, aujourd'hui, on a des leviers d'action pour faire en sorte que les personnes puissent aujourd'hui se construire par le biais des associations, par le biais des accompagnements que nous, on peut mettre en place dans un schéma un peu moins classique que, on va dire, l'instruction telle qu'elle est effectuée au sein des collèges, par exemple. Mais c'est une complémentarité. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir accompagner des associations, effectivement, globalement toutes les associations du département, quel que soit leur caractère. Mais pour ce qui concerne mon domaine de compétences et en lien avec l'éducation populaire, les associations aujourd'hui qui œuvrent dans ce domaine-là, qui accompagnent les personnes, qui les rassurent, qui les protègent et qui leur permettent justement de les valoriser et d'exercer leur citoyenneté autrement.
On a aujourd'hui une société fracturée, ça ne nous aura pas échappé. Justement, ce rapport à l'éducation, ce rapport aussi à l'éducation populaire, est-ce que ça peut être une des solutions pour essayer de faire que, bien ma foi, la société soit moins fracturée ? Est-ce que vous y croyez en un mot dans cette éducation populaire ? Je crois connaître déjà la réponse.
Évidemment, c'est une évidence. Non seulement j'y crois, mais j'en suis convaincu. Et pas depuis seulement que je suis conseiller départemental et en charge de l'éducation et éducation populaire, depuis très longtemps. J'en suis convaincu et je vais vous donner quelques exemples très concrets de ce qui a été mis en œuvre depuis 2 ans et demi, depuis que nous sommes en exercice et en responsabilité, la majorité de gauche sociale et écologique. Dans le cadre justement de l'exercice de la compétence éducation, nous avons mis en place, à l'attention des collégiennes et des collégiens, un magazine des collégiens qui s'appelle le MAG, qui a la particularité, alors évidemment, d'être à l'attention des collégiens et des collégiens, mais surtout de pouvoir être construit par les collégiennes et les collégiens. Donc vous voyez, c'est un levier. On les associe à cette démarche-là pour valoriser leur projet, pour mettre en avant aussi leurs préoccupations du quotidien en tant qu'adolescentes et adolescents. Et un autre sujet que nous venons de lancer, c'est le conseil départemental des collégiens, avec aussi là l'ambition d'investir les jeunes dans la réflexion pour exercer leur citoyenneté autrement. Et on considère qu'on devient citoyen pas à la majorité, on est citoyen bien avant l'heure. bien avant la majorité, pardon. Et c'est pour ça, moi, je suis très heureux aujourd'hui que 8 établissements, d'ores et déjà, se sont associés à notre démarche-là, 8 établissements du département. Et des classes de 4e et 5e vont travailler sur des rapports, sur des projets, en lien avec les politiques éducatives du département, sur le développement durable globalement, l'égalité filles-garçons, l'environnement, le harcèlement scolaire, toutes ces choses-là qui nous préoccupent. Et si ensemble on arrive à trouver des réponses, eh ben on contribuera justement à ce que chacune et chacun puisse se sentir mieux dans sa peau et puisse plus librement exercer sa citoyenneté.
Voilà, les citoyens de demain, finalement, ceux qui seront aux affaires, bien quand on sera à la retraite, on peut le dire comme ça. Justement, c'est aussi le fait d'intéresser les jeunes, et ce sera ma dernière question, la jeune génération à la politique. On voit qu'il y a une grande appétence, on reçoit beaucoup de jeunes qui entrent en politique à ce micro. Il y a une grande appétence, c'est quelque chose qui vous rassure, ça, que les jeunes s'emparent de la chose politique?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on constate de nombreux jeunes qui s'intéressent à la politique. Alors, la politique de proximité avant tout, c'est-à-dire à la collectivité, à la vie publique, ce qui se passe autour d'eux. Et justement, les actions dont je parlais tout à l'heure contribuent justement à faire en sorte qu'on puisse leur donner des leviers d'action et des éléments pour s'y investir encore davantage. S'y intéresser, c'est une chose. Pouvoir s'y investir, c'est encore autre chose. Et clairement, avec ces dispositifs-là, on participe à construire les citoyennes et les citoyens de demain, les adultes de demain.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Jean-René Carfentan, je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil départemental des Côtes-d'Armor, délégué à l'éducation et à l'éducation populaire. On en a parlé ce matin également de l'éducation populaire. C'est important. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci également.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.